me.
Prochaine présentation. En fait, ça va être très intéressant. J'ai gardé la meilleure chose pour la fin. On va parler des bases, des choses de base, des nouveaux GTLD. Et qu'est-ce qu'il va se passer avec les tout nouveaux GTLD, les nouvelles applications GTLD? Donc, ça va peut-être être une bonne présentation pour vous, pour être capable de suivre les discussions que nous allons pouvoir voir à travers la semaine. Michel, vous voulez vous présenter? Je m'appelle Michel Jordan et je suis gérant des communications des nouveaux GTLD. Ma collègue est avec moi aussi. Elle est directrice des programmes de registre de GTLD, de TLD. Je voudrais vous parler des nouveaux GTLD et des registres. On va donc commencer. Dans cette présentation, je vais vous donner un peu une vue d'ensemble des noms de domaines. On va parler de l'histoire du programme, comment on est arrivé, où on en est aujourd'hui. On va parler de ce qu'est un registre et pourquoi est-ce que ICANN fait ce programme et l'impact que ce programme aura. Et aussi qui, au niveau du programme, qui, quand, comment et combien. Et ensuite, où aller pour trouver plus d'informations. On va donc commencer à l'Internet. En tant qu'un écosystème qui avance, qui va de l'avant, qui change. En 69, ça a commencé avec ARPANET. Et en 1972, les courriels sont arrivés sur la scène. En 1991, on avait donc le WWW. Dans les années 90, c'est là que les choses ont commencé à augmenter avec la connexion sans fil. Les engins de recherche ont commencé à venir sur la scène. Google, Yahoo. Yahoo a été fondé en 98, la naissance de Google. On a vu le commencement des blogs, des réseaux sociaux. Les gens ont commencé à partager des images, de la musique, des vidéos à travers l'Internet. Et dans les années 2000, les choses ont vraiment augmenté. Les médias sociaux ont vraiment augmenté. Les gens ont accès à Internet à partir de leur téléphone mobile. Les Skype a commencé. Alors, en prochain, qu'est-ce qu'on va avoir? Les nouveaux GTLD fait partie de ce futur, quelle est l'anatomie des noms de domaine? Dans les noms de domaine, www.meetingican.org, et c'est donc le premier niveau des noms de domaine. La partie ICANN est le deuxième niveau, et le mot meeting serait donc le troisième niveau. Donc, quand on parle de nouveaux programmes GTLD, on parle seulement du premier niveau. Donc, vous allez vraiment nager dans une mare d'acronymes avec ICANN. On va donc clarifier quelques terminologies avant d'aller plus loin. Donc, domaine de premier niveau générique, c'est aussi une extension, un label ou un suffixe. On dit que c'est un string. Allez, c'est une série de caractères qui compose votre adresse Internet. Un CCTLD est donc un nom de domaine de premier niveau pour les pays. Il y a toujours deux lettres. Et ces TLD de deux lettres sont réservés pour les codes de pays. Donc, certains des exemples. .br pour Brésil, .mx, MX pour le Mexique et IDN, ce sont les noms de domaine internationaux. Ce sont des noms de domaine qui sont représentés par les caractères de langage locaux ou de leurs équivalents en lettres. Ce sont vous allez peut-être voir .cn pour Chine, ce sera donc en caractère chinois. On va donc regarder très vite à la racine. C'est un serveur de racine et donc les noms de domaine et générique et de pays. À gauche, vous voyez tous les TLD qui sont là, que l'on a en ce moment. Il y en a à peu près 21. Et ça va augmenter de façon significante avec le nouveau programme. On va certainement voir très bientôt des TLD qui vont représenter des villes, des États, des TLD géographiques, des marques qui vont souscrire à leur propre TLD. Il y aura des communautés, des régions. Et sur la droite, ce que vous voyez, ce sont les codes de pays. des domaines de premier niveau. Et couramment, comme je l'ai dit, jusqu'à présent, les IDN sont disponibles seulement pour les codes pays. Donc, quand nous regardons les participants, les joueurs dans l'industrie des noms de domaine, vous avez l'enregistrant, vous, votre organisation, qui veut un nom de domaine. Vous ne pouvez pas avoir être propriétaire d'un nom de domaine de deuxième niveau. Vous pouvez le louer. Donc, vous l'achetez d'un registraire qui a une interface avec le public ou vous pouvez l'acheter d'un autre revendeur. Vous avez certainement entendu parler de beaucoup de registraires. Alors, une fois que vous avez enregistré votre nom de domaine, le registraire le fait passer au registre qui, eux, font toutes les choses techniques pour que ce domaine soit trouvable sur l'Internet. Vous, le registraire le vend et vous, le registre l'opère. Donc, les deux ont des contrats avec ICANN. Qu'est-ce qu'un registre? Le registre, c'est un business, c'est une affaire qui est responsable pour faire marcher un morceau de l'Internet qui est crucial dans l'infrastructure de l'Internet. Ce sont, ils ont l'autorité, ils ont les bases de données master, maître de tous les noms de domaine de premier niveau enregistrés. Par exemple, VeriSign, ils enregistrent pour .com. Donc, ils ont l'autorité de tous les noms de domaines qui sont enregistrés sous cette TLD. Donc, il y en a beaucoup. Donc, chaque registre demande un contrat, un accord obligatoire avec ICANN qui est en général de 10 ans. Et en fait, cela définit les obligations que ce registre doit faire. Les registres, les opérateurs de registres doivent être conformes avec certaines responsabilités qu'il y a dans ce contrat, dans cet accord. Il y a des frais aussi de transactions qui sont associés avec cet accord. Voilà, Carla, au micro. Les frais, les coûts, les termes du contrat, de l'accord, c'est ce qui se passe avec les nouveaux GTLD. Les GTLD qui sont existants comme Net, etc., ils ont des termes différents, certains d'entre eux, différents frais, différents schedules. Si vous voulez tous les détails de tous ces accords, c'est disponible sur notre site web. Aussi, ce qui est nouveau avec le programme GTLD, c'est l'opérateur de back-end de registre d'urgence, ce qu'on appelle Ebero. C'est une organisation qui sera partenaire avec ICANN. Et avec Ebero, c'est là pour nous fournir des services en cas d'urgence, de situation d'urgence. Si, par exemple, un nouveau GTLD arrive en ligne et pour quelque raison que ce soit, elle ne peut pas continuer à opérer, le registre d'urgence, l'opérateur de registre d'urgence va s'avancer pour continuer les fonctions critiques de ce registre. C'était fait à la base, créé pour assurer une continuité de service et nous l'espérons, ce sera même pas, l'utilisateur final ne se rendra même pas compte. Donc, quel est ce programme, ce nouveau programme? C'est une initiative qui va donner la possibilité l'introduction de noms de domaines de premier niveau générique illimité ou d'extension dans l'espace de noms de domaine. Et c'est programmé, est géré par ICANN. Donc, le lancement de ce programme va créer plus de concurrence et de choix dans l'espace de domaine, de nom de domaine. Cela va donner le droit à de nouvelles innovations, générer des opportunités de business supplémentaires à travers le monde. Donc, voilà, regardons à un historique, brièvement, pour vous illustrer l'histoire, enfin, pour voir comment nous en sommes arrivés ici. ICANN, donc, a commencé en 1998. Nous n'avons pas d'audio, nous sommes désolés. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. les caractères donc sont de à la base des caractères latins de la langue latine. Donc tout ce qui est dans l'alphabet latin.com, COM par exemple, sont des caractères IDN. Ce sont des domaines, des noms de domaines internationaux sont faits dans les caractères des pays ou des régions. Par exemple, les caractères arabes ou chinois. Ce sont des exemples, voilà, des exemples de IDN. Alors, ECAN a été donc formé en 98. Avant ECAN, avant que ce soit, il y avait d'autres TLD qui étaient déjà en place. .com, .edu, .gov, ils étaient déjà là. Et en 2000-2004, nous avons présenté des essais, donc des nouveaux noms de domaine additionnels. De là, nous avons obtenu .biz, .name, .travel. Et entre 2005 et 2007, le GNSO a commencé leur développement de nouvelles politiques. Ils ont à la base fait la fondation pour la mise en place de l'élaboration des choses que nous faisons aujourd'hui. En juin 2008, dans notre réunion de Paris, le bureau ICANN a donc approuvé le travail du GNSO. Donc là, nous sommes venus très, très occupés. Il y a eu 6 versions du manuel avec aussi des excerpts, avec des guides qui étaient donc publiés pour qu'il y ait des commentaires au niveau du public. Il y a eu 2400 commentaires du public qui ont été revus, considérés, qui ont été pris en compte. Et ça a vraiment aidé ce qu'on a maintenant, la version qu'on a maintenant. Le manuel final que nous avons maintenant a été approuvé en juin à Singapour en juin 2011. C'était donc la nouvelle version du manuel. Et depuis, nous avons encore fait des changements depuis en septembre et en janvier. La version la plus récente peut toujours être trouvée sur notre site web. En juin 2011, le 20 juin 2011, nous avons aussi commencé une campagne de communication. Nous avons mis les gens au courant de notre programme à travers des événements en direct, à travers les réseaux sociaux et des campagnes de publicité. Et à peu près 2 semaines après que la fenêtre d'application s'est arrêtée, nous allons pouvoir mettre tout cela sur le site. Nous allons mettre des rapports des applications alors qu'elles arrivent à travers le procédé d'approbation. Pourquoi est-ce que nous faisons tout ça? Pourquoi est-ce que nous étendons les domaines de premier niveau? Parce que tout a l'air de bien marcher. Donc, pourquoi élargissons-nous cela? Une des raisons pour laquelle nous avons créé ICANN, c'est pour qu'il y ait un choix et de la compétition dans le DNS. Vous pourrez trouver... Nous allons vous montrer ça sur la prochaine diapositive. C'est aussi une plateforme pour qu'il y ait plus d'innovation, pour que les innovateurs aient donc plus de place pour travailler, pour qu'ils puissent créer. Une chose intéressante pour ce programme aussi, c'est que nous allons pouvoir avoir des nouveaux business, des nouveaux modèles d'affaires qui vont sortir de ce programme. Nous ne savons pas encore ce que nous allons voir, donc c'est intéressant. Et c'est aussi pour incorporer les IDN dont on parlait tout à l'heure dans les systèmes, dans les DNS. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces IDM n'ont toujours été seulement disponibles pour les CCTLD. Maintenant, ils vont donc être disponibles et tout le monde pourra souscrire à n'importe quel fil vis-à-vis de ces IDN. C'est un exemple seul de ces documents variés et des accords variés que vous pouvez, dont nous avons parlé au niveau de l'expansion des domaines, de l'espace, de DNS, excusez-moi. Donc, quel est l'impact potentiel de ces nouveaux GTLD pour les business, par exemple, pour les affaires? C'est une opportunité d'investissement. Il y a encore une nouvelle aventure d'investissement, une nouvelle façon d'investir. Ça va donner plus de choix et plus de compétition pour ces affaires. C'est une plateforme d'innovation, c'est de nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles opportunités. C'est aussi une façon différente pour les business pour qu'ils puissent faire leur marketing, pour qu'ils fassent du marketing de leur marque, gérer leur marque, leur stratégie. Et aussi, il y a les compagnies qui vont avoir à s'assurer est-ce qu'ils ont mis à jour leur système et leurs applications pour accepter ces nouveaux TLD, parce que la plupart du temps, ces programmes ont des codes qui ne vont pas reconnaître les TLD qui sont déjà là. Donc, souvent, des mises à jour sont demandées pour que les gens puissent reconnaître ces nouveaux TLD. On a une session, en fait, à ce sujet dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous pouvez aller à cette session pour apprendre plus sur cette acceptance des nouveaux TLD. Donc, impact aussi pour les gouvernements, les communautés. Cela va augmenter si les gens souscrivent pour des TLD de communautaires. Ça va donc élargir les communautés géographiques, linguistiques et culturelles en ligne. Ça va rendre les choses, l'Internet plus inclusive au niveau global et culturel. Avec les nouveaux ADN, par exemple, et on verra aussi plus de noms géographiques avec les villes, les États. Ce qui est avec les noms géographiques, par exemple, les gouvernements devront fournir, par exemple, une lettre de soutien. Si un applicant demande un nom géographique, il faudra que le gouvernement puisse envoyer une lettre de soutien prouvant qu'il soutient ce projet. Donc, il y aura un impact sur l'utilisateur final. Ça veut dire aussi plus de choix, d'innovation pour l'utilisateur final. Si je fais partie d'une communauté spécifique, quelqu'un a demandé un nom pour cette community, peut-être quelqu'un a déjà enregistré un nom de domaine deuxième niveau dans cette communauté. Je vais me sentir faire plus partie de ce groupe en ligne. Et aussi, ça va être un impact sur les communautés géographiques, linguistiques et culturelles en ligne. Ça va créer de nouveaux manières de trouver des informations sur les produits et les services en ligne. Qui peut faire la demande? Tu faisais une question? Nous excusons, nous n'avons pas l'audio. Je répète la question. En fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de TLD alors que la plupart des gens utilisent tout simplement un engin de recherche pour chercher ce qu'ils veulent sur l'Internet et puis ça vient tout seul? En fait, en essence, c'est ça la question. Vous voulez adresser ça? Non? 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 Vas-y. C'est une très bonne question. Pourquoi on a besoin de plus de GTLD? GTLD, c'est quand même encore une plateforme pour les gens, pour les compagnies qui font quelque chose. La raison pour laquelle vous utilisez Google, c'est que Google a le .com qui permet à Google de réaliser sa vision sur l'Internet. Nous ne savions pas que Google serait Google il y a 10 ans. En fait, ils ont enregistré au début de la vie de Google, ils ont enregistré leur nom de domaine. Quand ils ont commencé, c'était tout petit. Regardez où ils en sont maintenant. Nous ne savons pas, nous connaissions pas Facebook, nous ne connaissions pas toutes les choses que nous voyons sur Internet aujourd'hui. Mais encore une fois, pourquoi ils sont-ils là? Ils étaient là parce qu'ils avaient une plateforme pour réaliser leur vision en tant que business. Ils avaient le .com à l'époque. Donc, dans l'avenir, nous allons avoir... où nous allons donner l'opportunité pour les business d'établir cette nouvelle plateforme. Nous n'allons pas créer une innovation, nous créerons pas l'innovation en lançant un nouveau GTLD. Et nous allons donner donc aux gens une opportunité de réaliser leur vision dans le futur. Je voudrais injecter une chose. En général, pour parler de la technicité des nouveaux GTLD, bien sûr, mais nous parlons de la communauté des droits de la de la communauté de ICANN ce matin. Nous allons parler du modèle multipartite ce matin, de partie prenante ce matin. Mais peut-être vous, mesdames, tout à l'heure, vous parlez aussi un peu plus de l'historique de ceci. Cette demande, ce que nous faisons maintenant, c'était une demande de la communauté. Par exemple, au GNESO, ils nous ont dit nous aimerions avoir plus d'opportunités pour ce genre d'innovation. Donc, d'une façon, ICANN répond à cette demande. Et pourquoi elle répond? C'est parce que ça a été amené à notre attention par rapport à travers à partir de la communauté. Alors, qui peut faire s'enregistrer? N'importe qui à travers le monde peut vraiment faire enregistrer n'importe quel mot qu'il veut. La limite est 68 caractères, je crois. C'est aussi important de savoir que ce n'est pas pour les personnes privées. Ce n'est pas moi qui puis aller point Michel, par exemple. C'est un engagement d'une affaire, d'un business. Et vous allez avoir donc l'opportunité d'avoir un business de registre. Une partie importante de ce nouveau programme, c'est le soutien des applicants, le programme de soutien des applicants. Nous essayons vraiment de nous assurer que les nouveaux GTLD sont inclusifs au niveau géographique, que tout le monde ait l'opportunité et la possibilité de faire l'application pour un nouveau GTLD. Nous avons donc un programme de support, de soutien. Une partie, c'est il y a donc des services pro bono à travers le directoire de soutien des applicants. Sur le site web, nous avons deux matrices. Une, c'est pour les applicants qui ont besoin de soutien ou qui cherchent du soutien, et l'autre, c'est pour les organisations qui offrent du soutien. Je dis qu'ICANN ne fait rien d'autre que de fournir cette page où les gens qui recherchent puissent contacter les organisations qui peuvent les aider et vice-versa. Donc, c'est une partie du programme. Une autre partie, c'est l'assistance financière, le soutien financier. Si un applicant remplit son application, il peut demander une aide financière. Parce que si cette organisation qualifie, les frais seront seulement de 47 000 $. Ce qui est important de savoir, c'est que si vous demandez de l'assistance financière et que vous n'êtes pas au minimum, vous ne rencontrez pas la requête minimum, vous serez disqualifié du programme. Donc, la raison pour laquelle cela est en place, c'est pour prévenir que les gens n'abusent pas du système. Nous avons un fonds de soutien aussi pour les applicants. Le directeur a mis des fonds de 2 millions de dollars de côté pour aider, pour assister dans ce programme. C'est là. Nous espérons pouvoir rajouter là-dessus. Nous y travaillons encore sur cet aspect du programme. Mais nous travaillons donc avec ces chiffres pour l'instant. Il y aura une session jeudi. Et nous parlerons de ce programme en détail. Je voudrais juste suivre un peu. Phyllis en a parlé tout à l'heure. Ce programme de soutien pour les applicants existe et a été développé parce que la communauté, alors que nous élaborions ces nouveaux programmes, les nouveaux GTLD, la communauté nous a dit, oh, attendez un peu, vous devriez faire quelque chose pour aider les pays, les applicants de certains pays qui n'ont peut-être pas 185 000 $. Les applicants qui ne peuvent pas financer leur business parce que c'est très cher. C'est un business. Et c'est pour ça que ICANN est revenu et a développé ce programme de soutien. C'est pour ça que le directeur a mis de côté 2 millions de dollars. C'était en répondant à la requête de la communauté pour faire quelque chose pour les applicants qui en valaient la peine. Alors, comment est-ce que vous enregistrez? Il y a un système qui s'appelle TAS, le système d'application TLD, qui est accessible à travers notre site Internet. Le procédé est fait en anglais. Vous répondez à des questions, vous téléchargez les documents de soutien. Et voilà, c'est le système d'application. Il y a des délais à suivre, c'est crucial, il faut faire attention à ça. L'application est déjà ouverte, ça s'est ouvert le 12 janvier cette année. Et le 29 mars, c'est là que l'enregistrement s'arrête au niveau du TAS. Donc, l'enregistrement à TAS, c'est une série d'étapes. Nous avons créé donc ce délai. Ainsi, les applicants auront assez de temps pour finir leur application, la soumettre et soumettre les frais. Et auront donc d'ici le 12 avril, tout sera complet. La démarche sera complète. Si vous voulez enregistrer, vous devez donc revoir le manuel qui est le guide d'autorité de tous les pour les nouveaux GTLD. Il faut vraiment inclure de bonne heure les parties tierces d'une façon stratégique. Il faut faire attention aussi aux IDN. Il faut faire attention. Il y a au niveau des communautés géographiques et des applications pour les IDN, il y a d'autres requêtes qui sont faites, d'autres. La demande n'est pas vraiment la même, il faut faire attention. Il y a aussi des délais à respecter. Donc, les frais d'évaluation sont de 185 000 $ à payer à ICANN, 5 000 $ est dû à l'enregistrement avec TAS. Et nous savons qu'il y a des circonstances spéciales et ça, vous les trouverez dans les manuels. Il y aura peut-être d'autres frais aussi qui ne sont pas forcément payables à la ICANN. Et les frais en ce moment d'enregistrement, si votre TLD passe à travers le processus d'évaluation, c'est que vous avez maintenant un TLD, il y aura 25 000 $ d'enregistrement annuel de 25 000 $ qui sera payable à la ICANN. Et une fois que vous arrivez à un certain numéro, un certain chiffre, vous avez un frais de transaction de 25 cents sur le dollar. Regardons donc le processus d'évaluation. C'est vraiment une grande vue d'ensemble, de haut niveau. L'application, la fenêtre est donc ouverte pour 90 jours. Ensuite, vous avez une période de calme où les applications seront reçues et vérifiées pour voir si elles sont complètes. Et après ça, vous aurez 5 mois d'évaluation initiale. Une période initiale, c'est là où les applications vont passer à travers un historique, une vérification de 6 panneaux différents. Et à travers cette phase, c'est là où les choses se compliquent un petit peu, peut-être, pour une raison ou pour une autre. Une application, par exemple, ne passe pas le panneau technique. Le panel technique, cet applicant peut avoir une évaluation supplémentaire. Il peut demander une évaluation supplémentaire. Ou quelqu'un a fait une objection à votre application pour un TLD. Quelqu'un fait une objection, donc vous devez passer à travers le processus de dispute et d'objection. Ou alors vous avez demandé un TLD, quelqu'un déjà a proposé ce TLD, a déjà fait une application. Donc là, vous avez la phase de contention du fil. Donc il y a plusieurs phases à passer dans ce processus. S'il n'y a pas de problème pendant votre application et que vous êtes passé à travers cette évaluation initiale, vous pouvez aller transition, délégation. C'est là où vous allez faire le contrat avec ICANN et là, votre TLD sera délégué à la racine.
Un argument très important, c'est le processus d'objection que j'aimerais vous présenter maintenant. C'est lorsque nous demandons, lorsque nous affichons toutes les files pour lesquelles on a appliqué. Si vous voyez, disons que vous êtes un détenteur de marque de commercial, quelqu'un a appliqué pour votre marque, vous pouvez objecter sous l'onglet des droits d'objecter. Vous pouvez également objecter si le fil est similaire. Si vous pensez que le fil est offensant, il y a l'intérêt limité du public. Et si le fil soumis est contraire au droit international sur le droit l'ordre public et la décence, par exemple, objection communautaire, si vous pensez que c'est une personne impliquée pour un certain fil et que cette personne ne représente pas la communauté en question, donc vous pouvez objecter. Tout cela est délimité dans le guide du demandeur. Donc, il faut avoir quand même satisfaire à certains critères. Maintenant, que faire? Il faut évaluer le programme pour s'assurer qu'il est bien adapté pour vous. Familiarisez-vous au guide du demandeur, de l'applicant. Apprenez-en davantage sur le secteur du registre et l'industrie de DNS et comprenez ce qui est nécessaire pour appliquer. Même pour ceux qui ne vont pas soumettre une demande, il est important de comprendre ce qui va changer parce que les choses vont changer. Comment est-ce que cela va impacter votre marque de commerce et comment cela va impacter la communauté et les noms de géographie. Il peut y avoir des tendances industrielles potentielles, des démarches de compétiteurs, des changements Internet, des comportements de l'utilisateur. Il faut tenir compte de tout cela. Donc, à quoi faut-il s'attendre par la suite? La période de demande de soumission clôt le 29 mars. Ensuite, le 12 avril est la date délai pour la fermeture de la fenêtre de soumission. Et ensuite, le 1er mai, les fils sont postés et ouverture de l'objection, la période d'objection. Bon, enfin, vous voyez tout. Tout est affiché à l'écran. Et ensuite, ce que j'aimerais souligner, c'est le 1er décembre, c'est le dernier jour pendant lequel vous pouvez soumettre une objection pour un nouveau GTLD. Donc, les sessions que nous avons cette semaine pour aborder le nouveau GTLD, lundi, nous avons la mise à jour du programme nouveauté GTLD. Et ce sera donc un résumé bref sur les derniers déroulements, développements. Mercredi, c'est la protection des droits, la réunion qui va passer par le centre d'information des marques et de URS qui sont disponibles dans le programme. Et ensuite, également le mercredi, il y a l'acceptation universelle TLD que j'ai mentionné auparavant et jeudi est la session sur le programme de soutien aux applicants, demandeurs, aux candidats. Donc, pour trouver de nouvelles informations, allez nouveaugtld.icann.org. Nous avons des feuilles d'information, des clips éducatifs, services clientèle. Passez en revue le site. Si vous avez une question spécifique, vous ne pouvez pas trouver d'informations. Vous pouvez nous envoyer également un email à nouveaugtld.icann.org. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Dites-moi si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir.
Thanks. Hi, Michel.
Bonjour, Michel. Bonjour, Carla. Premièrement, j'aimerais vous dire, j'ai amélioré mon anglais pour venir ici grâce à votre podcast. Ma question est la suivante. Comment est le processus de délégation? J'aimerais comprendre un peu mieux le processus d'évaluation, de délégation. Il y a plusieurs étapes pour le processus de délégation. Nous analysons les registres pour savoir s'ils sont bien du point de vue technique avant d'être ajoutés à la racine. Il y a également le processus de contractuel. Ils auront un contrat avec ICANN qui fait partie du guide de l'applicant et c'est une partie dans laquelle nous négocions et signons le contrat avec la partie. Donc voilà deux démarches cruciales du processus de délégation. Et ensuite le TLD sont introduit à la racine, alors le registre lui-même, ils ont leur propre chronologie pour le commercialiser. Parfois, les gens sont confus quand on parle de délégation. C'est à ce moment que le TLD sont disponibles pour nous en tant qu'utilisateurs registrants, mais ce n'est pas le cas. Le processus de délégation sont internes. Il y a un processus ICANN avec les registres et une fois que les registres sont ajoutés à la racine, ils ont leur propre chronologie pour commercialiser sur le marché. Okay. Bonjour, Paul Spurgeon. Avec d'autres registres, nous consultons le guide de l'applicant depuis 6 mois. Vous avez fait beaucoup de travail et nous aussi en tant qu'applicants. Mais une des questions qui a surgi, c'est que le 1er mai, lorsque vous affichez les files qu'on va soumettre, quelles sont les informations qui sont disponibles à l'applicant pour les communautés, la géographie, ce genre de choses. Je crois que nous allons afficher le type de TLD, si c'est un TLD communautaire ou un IDN, il y aura une série d'informations autres que le point, peu importe ce qui est l'objet de la soumission. Et le nombre de files pour lesquelles on a soumis soumission 207, est-ce que ce sont des demandes d'application d'un nombre de files? Est-ce que vous savez ce nombre? C'est le nombre d'inscriptions dans TAS. Donc, chaque registrant peut demander jusqu'à 50 TLD. Grégory Seguin, AMCCTLD. J'aimerais vous demander la question. Quelle est la raison de, quels sont les motifs de réjection? Si ce n'est pas sur un nom géographique ou par communautaire, si quelqu'un demande pourquoi est-ce qu'on le rejetterait, cette personne doit fournir des informations pour lesquelles il est contre ces nouvelles inscriptions. Vous avez des critères à nous faire parvenir? Oui. Chaque registre, chaque demande est évaluée sur plusieurs lumières et la réjection peut avoir lieu sur plusieurs niveaux. Il y a des techniciens qui analysent la capacité technique d'un registre. Ils peuvent rejeter ce registre s'il ne satisfait pas aux seuils techniques, aux exigences techniques. Si vous êtes un TLD communautaire, il y a des exigences que vous devez fournir pour soutenir votre demande en qualité de communautaire, de TLD de communautaire. Si vous ne soumettez pas cette preuve, c'est un motif de rejection. Je ne veux pas vraiment m'attendre là-dessus, mais vous devez consulter le guide de l'applicant. Si vous ne satisfaisez pas aux restrictions, aux critères, tout peut servir de rejection du point de vue de l'évaluation. Oui, mais vous avez dit que si quelqu'un vous informe que c'est une violation de marque de commerce ou quelque chose qui n'est pas dans votre guide. Pour quelles raisons pourrait-on rejeter cette demande? Je vais voir si j'ai bien compris la question. Vous me demandez les raisons de rejection d'un TLD en cas où un tiers pourrait objecter. Donc, il y a 4 bases de réjection au tiers. Nous avons des panélistes indépendants qui vont examiner le dossier et décider si oui ou non la demande est valable ou non. D'accord? Et ensuite, en fonction de leur décision, ICANN est liée par leur décision. Donc, WIPO, c'est l'organisation qui va analyser toutes les demandes. Donc, si vous avez une marque qui est violée par un tiers, vous allez soumettre une objection avec WIPO. Mais au fait, cet applicant viole mes droits sur la marque et voici les preuves de ma demande. Et WIPO va prendre une décision et ICANN sera lié par la décision de WIPO. Est-ce que je pourrais... Je pense que la question est la suite. Est-ce qu'il y a des directives pour les gens qui aimeraient faire une objection? Donc, je fais une objection, mais est-ce que je dis je fais une objection en raison de ceci ou de cela, ou bien je fais une objection parce que je n'aime pas, tout simplement? Il y aurait beaucoup d'objections, alors. Le guide de l'applicant fournit des informations sur l'objection et il y a des liens où vous avez des processus auxquels il est fait référence à consulter le guide et les liens qui vous fourniront davantage d'informations, les coûts, la période d'objection, les documents ou les choses que vous devez fournir à vos plaintes Et peut-être on vaut mieux demander également une assistance juridique pour préparer leurs objections. Et c'est dans le guide et tout. Le guide contient encore davantage d'informations. Bonjour. Je m'appelle Tom Breakfast. Je vois que ce processus semble long ou quelqu'un qui ne s'est pas inscrit avant 29 mars, mais peut le faire par la suite. Donc, après ce round, est-ce qu'il y aura d'autres opportunités, premièrement? Deuxièmement, il me semble que cela a découlé des opérations CCDLD et il me semble que cela pourrait interrompre la continuité commerciale de certains opérateurs CCTLD. Comme vous le savez, les CCTLD sont des mots de deux caractères et voici, ce sont les deux lettres pour votre pays. Donc, dans certains pays, ont un petit nom parfois. La plupart des gens préfèrent s'associer à cela. Donc, si quelqu'un se présente et aimerait enregistrer ce nom, et pour les GTLD, ils veulent capitaliser sur les investissements pour l'opération de ces GTLD. Bien sûr, cela ne rentrerait pas dans la capacité d'objecter. Ce n'est pas un petit nom, une marque de commerce et à laquelle ne serait pas. Donc, comment est-ce que cela est protégé? Pour la première question, si vous n'êtes pas inscrit avant le 29 mars et que la fenêtre de période d'application termine, il y aura un second round. On ne va pas vous dire la date exacte, mais le directoire s'est engagé à mettre en œuvre un plan et nous allons faire tous nos efforts pour évaluer ce plan pour être en mesure d'avoir un second tour. Donc, il y aura un second tour. La seconde question... Une raison pour laquelle nous faisons, c'est pour le choix et la concurrence. On a l'impression que c'est la concurrence. Mais c'est ce qui se passe. Les protections ont des barrières de sécurité. Donc, c'est un peu épineux pour les CCTLD. Comme je l'ai dit auparavant, ils ont leur propre souveraineté. Et ce que j'ai vu auparavant, c'est que beaucoup de CCTLD ont choisi de modifier certaines des règles afin d'être plus compétitifs. Par le passé, ils n'autorisaient qu'un CCTLD d'être inscrit sous le compte de pays. Maintenant, c'est réglementé où ils demandent qu'une compagnie soit ou bien une marque de commerce. Et maintenant, ensuite, c'est moins restrictif et ils ont baissé le prix. Ils ont fait la promotion de leur TLD. Donc, beaucoup de CCTLD ont fait beaucoup d'activités pour promouvoir leur propre TLD pour leurs propres clients. La plupart de leur TLD accordent des licences, par exemple, Tuvalu à VeraSign. Vous connaissez, c'est pas seulement un code TV, TPI. Donc, les CCTLD peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont fait beaucoup de travail créatif pour promouvoir leur CCTLD. Je suis du Brésil, je vais au Brésil et .br est partout. Surtout le marketing matériel, le publicitaire, le registre local a fait un très bon travail pour promouvoir et établir le .br dans le pays. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une véritable menace par les nouveaux TLD? Je ne sais pas, mais vous voyez que l'identité dans ce pays est importante. Vous le voyez bien.
Nigel Hex, de la CAN. Pour clarifier là-dessus, sur cette question, sur si vous avez un nom géographique, comme je l'ai compris. Par exemple, moi, j'étais engagée au niveau gouvernement en Angleterre. Si, par exemple, nous, notre code est UK.UK en Angleterre, Royaume-Uni, mais au niveau des noms géographiques que les gens puissent trouver avec les villes, les villages. Par exemple, on pourrait mettre n'importe où. Tous ces noms seront classifiés au niveau géographique. Si c'est un nom géographique, c'est le pays lui-même qui doit le laisser faire ou pas, l'autoriser ou pas. Je ne sais pas d'où vous venez, mais il y a... Je veux clarifier. Ce dont je ne suis pas vraiment sûre pour répondre à votre question, c'est que si vous avez un nom patois ou patoisant, disons, ou argot, un mot qui n'est pas vraiment géographique, où les gens ne vont pas, qui ne va pas être vraiment associé avec tel ou tel pays, il faut voir si ça sera déterminé en tant qu'un nom géographique ou pas. Il y a donc un groupe de travail spécial pour les pays et les territoires. Et ce groupe de travail, je suis un membre de ce groupe, travaille sur ce point spécifique, précis. Il y a des noms officiels des pays, des noms qui sont utilisés de façon commune, il y a des noms historiques des pays, et ainsi de suite. Donc, c'est pas nécessairement bien compris ou classifié. Je ne suis pas vraiment sûre que les recommandations seront prêtes. Et nous pourrons vous faire passer plus d'informations, beaucoup de types de noms. Mais Wales, par exemple, le Pays de Galles, vous savez, tout le monde que c'est Pays de Galles, ça viendra peut-être, l'Écosse va peut-être devenir un pays. Non, mais vraiment, c'est un problème sérieux. Je pense que ce point de vue, ce problème sera résolu. Ce problème sera résolu.
Hi, OK.
Excusez-moi. Je m'appelle Jenna. Je suis de IPMER. Je gère plusieurs de nouveaux LTLD de la part de mes clients. J'ai deux questions. Parce que l'organisation est assez grande pour, par exemple, ces organisations sont assez grandes pour appliquer pour un propre GTLD. Ils ont des questions à propos de dépôt d'argent. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas continuer mon business? Vous voulez que ce soit obligatoire Je n'ai pas compris. Est-ce que ICANN considère d'autres méthodes de garantie, peut-être une assurance ou autre, pour continuer? De quoi? Question 50 sur l'application. L'autre question, c'est une délégation de... L'applicant doit signer un contrat avec ICANN. Donc, si le client a un problème avec quel que soit qui soit sur les clauses du contrat ou de l'accord, est-ce que l'ICANN est flexible assez pour faire des changements? La deuxième, comment est-ce qu'ICANN est flexible? Est-ce que ICANN peut faire des changements aux accords? Oui, il y a de la flexibilité, mais je ne peux pas parler pour le département juridique pour savoir quel est le degré de flexibilité. Bien sûr, nous devons être justes vis-à-vis de nos applicants, de nos demandeurs. Nous devons être performants, donc nous devons faire attention à ça. Donc, je ne sais pas. Est-ce que notre flexibilité sera basée sur les devoirs que nous avons par rapport à ce qui est demandé? La continuité des opérations, en parlant de ça, c'est instrumental. Je vais vous demander de diriger cette question à notre service client parce que c'est une question très spécifique pour la session de base et le service client a géré beaucoup de ces questions au niveau des instruments opérationnels. Je vais vous demander donc d'adresser votre question au service client. Je m'appelle Adrienne. Je m'appelle Adrien Casala. J'ai une question qui ne va pas être directement liée à l'ICANN, mais je me demandais si une compagnie s'enregistrait ou demandait un nouveau GTLD, par exemple, Point Saint-Rosé, par exemple. Est-ce que ce soit accepté? Quelles seront les grandes lignes les directives qui seront faites pour savoir si le pays a une juridiction sur le site et sur le JTLD, sur ce JTLD. Est-ce que c'est parce que San José est le nom de beaucoup de villes à travers le monde? Non. Alors, il y a... Vous avez, par exemple, des situations différentes. Vous avez une situation dans laquelle vous avez un applicant, un demandeur qui est légitime parce que ils ont tout le soutien de leur gouvernement et ils ont rempli toutes les attentes, et d'autres villes qui s'appellent Saint-Rosé à travers le monde qui n'ont pas fait une demande. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en assumant que cet applicant, ce demandeur rencontre toutes les attentes, ce demandeur va obtenir point Saint-Rosé. Je sais aussi, personnellement, je connais des GTLD qui les demandeurs vont à travers le monde et obtiennent le soutien d'autres demandeurs, parce que moi, je peux pas en parler. Par exemple, Berlin, je sais que Berlin a déjà fait ça. Ça dépend vraiment du demandeur de rassembler ce genre de soutien, et c'est vraiment aux demandeurs, aux villes à travers le monde et aux gouvernements à travers le monde de savoir de ce qui a été demandé, ce qui a été ce qui va être enchi pour ça, et de faire quelque chose à ce sujet. Je me demandais aussi, parce que le gouvernement US des États-Unis a été souvent pris juridiction sur les .com, .net, parce que VeriSign, la compagnie, les a enregistrés aux États-Unis. Donc je me demandais s'il y a une cité, une ville, par exemple San José, Costa Rica, qui enregistrerait le point San José, qui pourrait limiter d'autres pays pour avoir juridiction là-dessus. C'est pas très clair. J'ai pas vraiment compris. Je suis désolée. Par exemple, le gouvernement US des États-Unis, par exemple Mega Upload. Ils ont étendu leur pouvoir, leur juridiction sur d'autres pays en disant que c'est un point com. Donc, comme c'est un point com est enregistré aux États-Unis, qu'est-ce qui les préviendrait de faire telle chose, de le faire encore? Alors, est-ce que, si j'ai bien compris, ce que vous dites, c'est que, par exemple, point com, c'est un TLD qui est disponible à travers le monde. Bon, même si ça a été géré par une compagnie qui est États-Unis, ça pourrait être une compagnie d'une autre partie du monde. Le .com contrat a été fait avec VeriSign, mais c'est une compagnie américaine. Mais pour un GTLD, il n'y a pas de limitation géographique ou de règle qui dit que .com doit être US, .com doit être américain. Donc, je voulais juste clarifier ce point. Au niveau du marketing global pour les TLD, par exemple .tv, c'est fait pour les organisations .org. Par exemple, les GTLD peuvent être spécifiques, avoir un but spécifique, ou peuvent être général et global. C'est le choix du registre pour savoir comment il va faire son marketing là-dessus. ACAN ne peut rien dire sur cette proposition, n'a pas droit de dire quelque chose. Comment est-ce que le registre font du marketing sur le TLD et comment ils positionnent leur vente sur le marché? Donc, au futur, dans l'avenir, si nous avons un TLD qui s'appelle, disons, .shop, .magasin, tout le monde connaît .shop, pourquoi pas, tout le monde connaît cet exemple, .shop, est-ce que c'est quelqu'un que ce registraire va choisir juste pour dire les gens qui parlent anglais, les pays qui parlent anglais, parce que le mot shop est en anglais, ou est-ce qu'ils vont promouvoir à travers le monde? On ne sait pas. Et nous ne pouvons rien dire là-dessus. Nous avons le droit de dire quelque chose sur comment les registraires gèrent leurs choses au niveau technique et ainsi de suite. Tout ça va être basé sur les contrats que nous avons, ces contrats qui vont... Ces stratégies de marketing, comment elles sont faites, nous n'avons rien à voir avec là-dessus, nous ne pouvons rien dire. Et aussi, je vais dire quelque chose, ça va peut-être me poser des problèmes, mais certains pays ne bloquent certains TLD, comme vous le savez. Bonsoir, je m'appelle Kelly Davis, je suis du collège d'université en Jamaïque. Si une compagnie fait une demande pour un nouveau GTLD, et ils ont payé les 5 000 $. Cependant, cette demande est rejetée. Et de quelle manière est-ce que l'ICANN va rembourser l'argent? Comment est-ce que l'ICANN va rembourser l'argent? Ces frais de 5 000 $ ne se remboursent pas, n'est pas remboursable. L'évaluation, le frais des évaluations de 190 $, c'est remboursable. Pas toute la totalité du montant, mais dépendamment de où vous en êtes au niveau du processus, si vous vous retirez votre demande, vous pouvez vous faire rembourser. C'est souligné dans le manuel de l'applicant. J'ai quelqu'un qui a une question à distance. Il y avait donc deux questions. Une question du Bangladesh qui demande combien de GTLD d'application a été reçu jusqu'à présent. Et je lui ai dit qu'on n'avait pas le droit de faire des commentaires là-dessus. Mais tout le monde va le savoir au 1er mai sur le site web. Nous allons pouvoir donner l'information au public général en même temps, partout, à tout le monde en même temps, donc l'information sur le site web. Et il nous a demandé quand est-ce qu'on va voir le deuxième phase dont nous vous avons parlé tout à l'heure. Et nous ne savons pas exactement la date de la deuxième phase. Le directoire en parle et le directoire nous a dit qu'il aurait une... C'est aussi une histoire de politique. Nous allons pouvoir avoir une décision. Je pense que c'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour Carla et Michel, je voudrais vous demander une chose de plus, une faveur à vous demander. Est-ce que vous pouvez résumer la session qui va parler des pour ce qui va se passer avec les nouveaux GTLD dans les semaines à venir? On va laisser ça sur l'écran. Maintenant, merci d'être venu pour que cette session soit si interactive, qu'on puisse tout le monde participer. Je suppose que le café a aidé un peu. Il y avait plus de questions à cause du chef. C'était pas notre café qui a aidé, c'est notre charme. Merci encore. Et nous allons finir, car la Michelle peut rester un petit peu plus longtemps si vous voulez leur parler en personne. Et je serai là aussi pour un autre quart d'heure. Merci.